Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chers lecteurs, bonjour. Alors vous savez ce qui est formidable avec les livres, c'est que dans les livres, on peut parler de tout, de musique, de théâtre, de cinéma et même de peinture. Et c'est tout autour de la peinture, avec une grande figure de la peinture montpelliéraine, Vincent Bioulès, que nous allons faire cette émission. Alors Vincent Bioulès était à l'Opuscule, il y a petite librairie l'Opuscule, il y a quelques semaines. Nous avons posé nos micros. Il y était à l'occasion de l'apparition de deux livres le concernant, son journal qui est publié par les éditions Méridian, un éditeur de Montpellier, journal 1972-2018, et puis par des conversations dans l'atelier, un recueil de conversations donc, avec Vincent Bioulès, ça c'est publié par les éditions Demain, c'est les conversations avaient lieu avec un ancien libraire, Pascal Plat, et c'est Pascal Plat qui menait la rencontre ce soir-là à la librairie L'Opuscule.
Donc on a le plaisir donc ce soir de recevoir Vincent Bioulès pour parler de deux livres. Donc les conversations dans l'atelier qu'il a eu avec moi l'hiver dernier. Et puis son journal, le journal 40 ans, 40 années, oui c'est ça, de journaux. Voilà, donc nous allons parler des deux livres. Alors, en fait, je voudrais juste, peut-être que tout le monde ne me connaît pas, je suis un ancien libraire, donc j'ai été libraire à Montpellier pendant à peu près 25 ans, et donc c'est là que j'ai pu rencontrer Vincent. Et on avait l'habitude de discuter de choses et d'autres, et c'est ainsi que finalement je lui ai proposé quelques conversations dans l'atelier. Et on a commencé à parler de son enfance et de l'ancrage et de son ancrage dans un certain quartier de Montpellier et notamment du collège de Henclos.
Oui. Alors on remet ça.
Oui, on remet ça.
Alors donc j'habite 1 avenue Saint-Lazare et j'ai le téléphone de mon grand-père. Qui était, il n'y avait que 4 chiffres, maintenant on en a rajouté les autres. Et j'habite au 1, je suis né au 7, ma sœur habite au 19, ma dernière fille au 24, et j'ai quitté Montpellier quand je suis allé à Paris, comme tout le monde, entre 1960, le moment 61 où je me suis marié, et jusqu'en 64 où j'ai fait une partie de mon service militaire à Paris. Et puis je suis revenu à Montpellier, puis alors j'ai enseigné à droite et à gauche. Mais je suis véritablement ancré, effectivement, dans ce quartier, qui à l'époque, maintenant c'est très chic, ça s'appelle les Beaux-Arts, voilà. Mais avant, on disait l'abattoir, c'était beaucoup plus modeste. Et c'était un quartier de maraîchers et de jardins. Et maintenant, il y a des immeubles. Et... ce qui me fait tout de même encore plaisir, c'est que je retrouve dans ce quartier la lumière que j'ai connue lorsque j'étais enfant. Alors j'ai écrit, je crois que c'est dans mon journal, alors je rouspète contre l'évolution bien sûr du monde dans lequel nous vivons, mais je dis ils n'arriveront quand même pas à démolir la lumière. Et j'ai un copain qui est super pessimiste qui m'a dit « si tu verras, ils parviendront ». Et donc la lumière a joué un rôle considérable, et la lumière de ce quartier où j'ai commencé à dessiner, dans le jardin de mes parents, dans les entours de l'Enclos Saint-François, où mon père était maître de chapelle. Et donc j'ai vécu là, dans un espace très privilégié, parce que notre maison était entourée d'arbres, il y avait un terrain de jeu, et ce terrain de jeu qu'on appelait le champ, était une ancienne vigne, et mon père, adolescent, avait participé à l'arrachage de la vigne pour en faire un terrain de jeu. Et puis ensuite, il y avait l'enclos Saint-François, qui était comme disait l'abbé Maurras, qui était mon professeur n'avait rien à voir avec Charles Maurras, qui était mon professeur d'histoire, Saint-François d'Assise, édition de luxe. Et effectivement, c'était un collège très beau. Et il y a une chapelle, je vous conseille d'essayer de visiter, et dont la clotte m'a dit que c'était le plus beau faux qu'il avait jamais vu. Et effectivement, c'est quelque chose de très merveilleux, parce que tout y est totalement contrôlé. Et on dirait, quand on entre dans cette église, où il y a des vitraux qui ont enchanté absolument mon regard lorsque j'étais jeune, on a l'impression d'entrer dans un décor de film, d'un film anglais des années 50, où le style perpendiculaire et Errol Flynn se conjuguent. C'est un lieu très magique, et l'abbé Prévost a acheté de très beaux tableaux, alors ce qu'on appelle des tableaux d'antiquaire, c'est-à-dire il n'y a pas de Frangelico, il y a de toute une série de très beaux tableaux de primitifs espagnols ou de l'école d'Avignon, et ensuite il y a de la très belle sculpture polychrome. Alors cette chapelle est inscrite maintenant à l'inventaire, et elle est bien entretenue. Elle ne sert plus au culte, puisque le collège n'existe plus et il n'y a plus de professeurs qui appartenaient autrefois à l'église. Mais le lieu est quand même protégé, et c'est un jour on va pouvoir peut-être le visiter, parce qu'il est peut-être question d'en inscrire la totalité justement à l'inventaire des monuments, sans en faire non plus un classement, parce que ce serait trop compliqué. Donc je suis né dans ce milieu-là, et alors bien sûr, à un moment donné, j'étais contre. Et puis ensuite, quand le propre de l'art de vieillir, c'est de redevenir un enfant.
Tu dis dans ton journal, là on passe au journal, tu dis, l'enfance me submerge et m'appelle, mais tel le roi des zones, mon enfance est vide. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ?
Je n'ai pas écrit ça.
Si, tu as écrit ça.
Non.
Je suis désolé.
Quelle page ?
Voilà, écoute-moi. Je ne sais
bon,
plus.
Alors, mais, je veux alors, dire, d'abord, mon enfance est vide. Non.
Oui, mais d'abord, le roi des zones, tu fais référence à Goethe ou à Schubert ou à Tournier ?
Je fais référence à Goethe et à Schubert.
Ouais.
Oui.
Très
oui.
Bien.
Non, mais,
oui, parce que là, oui, en l'occurrence, bon.
Non, mais si tu veux, si j'ai dit ça, c'est qu'il y a, y a quelque chose de ma vie qui
a disparu.
Qui a totalement disparu.
Oui.
Bon, je pense que plus on vieillit, plus on a besoin de ses parents.
Mm.
Et c'est des gens avec lesquels je parle tous les jours. Et ça se passe bien.
Tant mieux. Oui, alors ce journal...
Alors, je lisais les entretiens de Hameau chez Claudel,
oui.
Et Claudel disait que dans sa famille, tout le monde s'engueulait. Et effectivement, dans ma famille, tout le monde s'est engueulé aussi. Mmh. Bien sûr, on en a eu comme ça un souvenir tout à fait adouci, idyllique, mais il y avait des disputes phénoménales. Avec mon frère, c'était effrayant. Mmh. Mais un jour, on a décidé l'un et l'autre de ne plus jamais se disputer. Et en l'espace de 3 secondes, on ne s'est plus jamais disputé.
Mmh.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se disputer ? Mais ma mère était une femme très courageuse. Elle avait un grand courage physique. Et un jour, l'autre nous dit pendant le déjeuner... Si vous voulez vous en sortir dans la vie, mes enfants, il faut que vous soyez capables de dire merde à n'importe qui. Alors mon père lui répond, je partage en partie les théories de votre mère, mais je me permettrai d'ajouter que ce n'est pas toujours nécessaire.
Alors ton père...
Alors ils sont très bien définis, là.
Tu n'as pas dit que ton père, puisqu'on a parlé de l'enclos, ton père était maître de chapelle à l'enclos.
Oui.
Ça c'est quand même important.
Oui, alors il était maître de chapelle, et quand j'étais enfant, j'avais horreur de la musique, parce que je l'ai répété 100 fois, parce que la musique me prenait ma mère, comme ma mère faisait de la musique avec mon père. La métaphore, faire de la musique avec quelqu'un, c'est faire l'amour avec quelqu'un. Et donc, ma mère, mon père me prenait ma mère en faisant de la musique. Puis après, je me suis calmé quand même, parce qu'il faut s'adapter quand même à la réalité. Et ça s'est fait d'une manière très, très facile, parce que un jour, il y a un pasteur de Montpellier qui a envoyé un mot à mon père en lui disant, voilà, j'ai écouté votre concert hier soir. Mon père avait donné au théâtre, là, le Didon aîné de Purcell et une cantate de Bach, et ça m'a beaucoup plu, j'aimerais venir chanter, si vous le permettez, j'ai une voix de basse, et puis je joue du violon alto. Et mon père lui dit, bah, écoutez, c'est très simple, venez chanter, il n'y a pas de problème, et allez faire de la musique avec mon beau-frère, rue du Carré du Soi, Carré du Roi, tous les samedis, parce qu'il a un quatuor à cordes, il sera, ou un orchestre de chambre, il sera ravi de vous accueillir. Mais ce pasteur avait une fille, et qui jouait de la flûte. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire aussi, c'est que la première fois où je l'ai vue, c'est dans le salon de ma tante, où mon père avait vu pour la première fois ma mère. Je suis presque sur le divan, là.
Non, mais c'était, là c'était au boulevard Sarail.
Au boulevard Sarail. Mm. Et donc, il y avait les JMF, les Jeunesses Musicales de France, dont mon père était le directeur à Montpellier. Alors, on allait au concert, et je faisais des caricatures, je l'avais repéré. Alors, je faisais des caricatures des musiciens, et je lui passais comme ça des petits billets, puis comme elle riait, voilà, ça s'est très bien passé. Quand j'étais gosse, j'ai été très marqué par la peinture, par ces primitifs que je voyais là. Et il y avait également un livre qui ne sortait de son écrin que dans les grandes fêtes pour la Noël, pour Pâques, pour Pentecôte, pour la fête de Dieu, des choses comme ça, dont on manipulait avec des gants blancs. Et alors ce livre d'heures avait été peint d'abord par... le dernier des miniaturistes connus en France, qui s'appelait Anatole Fouché, et dont Huysmans parle dans l'Oblat. Et ensuite, il a été continué par un père bénédictin, et ensuite, malheureusement, ce livre a été anéanti par une inondation stupide, il y a pas un très grand nombre d'années, et alors comme il était sur du velin, on a été incapable de le restaurer. Et alors ce livre, dont j'ai un souvenir très très précis, pour moi c'était quelque chose à la fois de merveilleux et d'intouchable, parce qu'on le protégeait beaucoup, il était peint à la main, c'était très 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 beau, et en même temps c'était une émotion, finalement c'était au second degré, parce que cet art de la miniature tel qu'on pouvait le voir dans ce livre était très daté aussi par la sensibilité de la première partie du siècle dernier. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu le faire passer pour un ouvrage médiéval, mais il y avait une charge poétique très très grande.
Oui, et c'est peut-être là aussi que tu as perçu une certaine représentation des arbres.
Oui, alors là, j'aimais beaucoup ça, et alors, mes parents m'offraient des petits bouquins, et alors j'avais notamment un livre qui était le livre de la chasse de Gaston Phébus, où il y a de très très belles miniatures, et puis ensuite les riseurs du duc de Berry, des choses comme ça. Alors j'étais très sensible à ça, et c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle une esthétique nominaliste. Alors j'étais incapable de formuler comme ça à l'époque, mais c'est-à-dire qu'une peinture qui était le contraire même de la peinture impressionniste, c'est-à-dire que tout ce qui était représenté était simplement des concepts. Mettons un concept d'arbre, un concept de montagne, un concept de paysage, et c'est comme si on... Et ça me fait penser un peu aux vignettes qu'il y avait autrefois dans les dictionnaires, ou même dans le catalogue des arts et cycles de Saint-Étienne. Et c'est une manière de décrire le monde, de le définir, qui est très particulière. Et lorsque beaucoup plus tard, en 1977-18, j'ai rencontré Jean Hugo, et à partir de cette date, nous sommes devenus très amis, j'ai retrouvé dans l'art de Jean Hugo des choses que j'avais repérées à cette époque dans la peinture du Moyen-Âge. Alors, c'est une chose qui a beaucoup compté pour moi au moment où, lorsque j'ai abandonné, je me suis détourné de la peinture non figurative, j'ai décidé de figurer à nouveau. Mais figurer à nouveau ne voulait pas dire figurer comme j'avais fait avant, c'est-à-dire reprendre la peinture où je l'avais laissée, où je l'avais, la peinture figurative que j'avais abandonnée à un certain moment. J'avais le sentiment qu'il fallait que je construise
un vocabulaire
de forme et un répertoire de couleurs qui me permettent de reconstruire, de construire une figuration nouvelle. Et toutes ces choses-là sont revenues, m'ont envahi, alors pas d'une manière aussi simpliste que je le décris ce soir, parce que là, quand on parle comme ça, de ça, on fait des raccourcis,
oui.
Alors que ça se déroule dans le temps, avec beaucoup d'hésitations, difficultés, etc. Et puis la peinture, c'est quand même un art qu'on fait avec ses mains, donc c'est long. Mais ça a beaucoup joué. Et ça m'a servi beaucoup au moment où j'ai été très attaqué quand j'ai fait à nouveau de la peinture figurative. Lorsque j'ai montré chez Templon en 78 les grands tableaux que j'avais fait sur les places d'Aix-en-Provence, dans le livre d'or se trouvait écrit « Voici le retour de la peinture néo-fasciste ». Il faut le faire quand même. Bon. Alors, c'est quand même une époque formidable, parce qu'on avait le culot d'écrire des conneries fantastiques. Et j'en ai dit pas mal aussi de mon côté. Bon, c'était pas uniquement les autres. Mais il y a eu un tir de barrage qui s'est constitué, notamment à partir des institutions, par exemple du Centre Pompidou, pour dire non à ce que je faisais. Et mes meilleurs camarades, avec lesquels je viens de déjeuner là, ce jour dernier, ont été des tireurs d'élite.
On va y revenir. Mais ceci étant dit,
je n'en ai pas vraiment souffert parce que j'étais libre. Quand on peint, bien sûr, on pense un peu à ce que l'on fait.
Oui.
Mais contrairement à ce que la plupart des gens croient, on ne s'applique pas et on ne regarde pas beaucoup. C'est le corps qui peint et quand ça marche, on éprouve un sentiment d'euphorie. Et puis quand ça ne marche pas, on peut éprouver un sentiment d'angoisse qui va jusqu'à la sueur froide. En fait, quelque chose de très très dramatique.
Oui, mais ça s'arrange.
Alors, on est traversé sans arrêt par des idées contradictoires. Et le soir, quand on écrit son journal, on essaye de faire, je l'ai suggéré tout à l'heure, de faire une espèce de bilan de ce que l'on a vécu, et on essaye justement de comprendre ce qui est, c'est-à-dire ce qui est le fruit du travail de la journée.
Et tu dis, d'ailleurs, et ça rejoint aussi un petit peu ce que tu viens de dire, tu dis « dessiner, c'est comprendre ».
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah ben, là, ça c'est une chose que j'ai dite dans le film là, que j'ai fait, qu'on a fait au moment de mon exposition.
C'est aussi dans le journal.
Oui, lorsque je décide d'aller peindre dans la campagne. Bon, alors j'ai une voiture qui est fabriquée pour ça, et je pars. Bon. Si je vais être obligé de... C'est une voiture qui pollue, comme... Bon, c'est inimaginable. Et alors, j'ai très très peur d'être arrêté et ne plus jamais pouvoir m'en servir. Mais elle me rend de très grands services. Alors je pars et je vais, mettons, dans la campagne. Et tout d'un coup, j'aperçois un paysage qui me donne envie de peindre, envie de dessiner. Alors, je m'arrête, je m'installe, je commence et là je suis aveugle. Je n'y vois plus rien. C'est-à-dire que ce que j'avais perçu, qui était un tableau à naître, à partir de ce qui est devant moi, devant ce réel, tout d'un coup, tout devient complètement opaque. Je ne comprends plus rien. Et donc je dois retrouver cette espèce d'émotion de flash que j'ai eue et qui a fait que je me suis arrêté, que j'ai décidé de peindre, je ne peux le retrouver que par le dessin, en essayant de reconstituer avec un outil, mettons du fusain ou un crayon, qu'importe. Et tout d'un coup, là, je fais réapparaître, mais sous une autre forme, sous une forme insoupçonnée, tout au moins pour moi-même, ce que j'avais cru percevoir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, c'est cet aveuglement. Mais alors justement, c'est là...
Parce que le réel est aveuglant. Ce qui est clair, c'est la réalité. Et la réalité, c'est le langage. La réalité, c'est le langage. C'est tous les langages, ça, c'est la réalité. Mais le réel, on ne sait pas ce que c'est. Alors moi, je trouve que ce n'était pas la peine d'inventer le surréalisme, parce que le réel, déjà... C'est quelque chose de complètement... on se heurte au réel.
Oui, oui, mais le problème du réel pour un peintre, c'est ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Et peut-être que le mystère réside justement dans le fait que l'invisible, le peintre peut essayer de le rendre visible.
Oui, mais alors, ce que tu entends... par l'invisible, c'est l'émotion que nous ressentons devant justement ce qui nous entoure. Alors, il faut bien dire, je vais dire que j'ai une banalité énorme, mais c'est très important d'y penser, c'est que le monde n'a jamais été vu que par un seul être. Bon, c'est-à-dire que chacun d'entre nous voit le monde à sa façon, et il y a quelque chose... dans lequel la vision que vous pouvez avoir du monde, moi, je ne peux pas y entrer. Bon. Et alors, il y a pour des gens pour lesquels la vie est merveilleuse, le paysage est splendide, puis pour d'autres, c'est exactement le contraire. Et ce qu'on avait appelé l'invisible, c'est justement donner un nom et définir, parvenir à exprimer l'émotion que nous ressentons au travers d'un langage. Qui peut être partagé. Parce que la seule chose qui peut être partagée, c'est le langage. Le langage de la peinture, le langage de la musique, le langage de la poésie, etc.
C'est Proust qui parle du tableau et qui dit que les tableaux sont des miroirs magiques. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des miroirs magiques parce que... on y trouve une part de la réalité que l'on connaît et qui nous permet en fait de faire naviguer notre imagination. Il le dit, je crois que c'est en regardant au sujet de Monet. Tu es d'accord avec ça?
Alors, répète.
Oui, il dit que les tableaux sont des miroirs magiques. Et
il dit ça au sujet de la peinture d'Elstir.
Non, c'est Monet.
C'est Monet.
Oui, c'est Monet.
Oui. Mais parce que Elstir, c'est Monet. Oui. Bon, mais oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a dans quand on regarde une peinture de Monet, par exemple, si on regarde, mettons les derniers tableaux, les grandes séries des Nymphéas ou des jardins japonais qu'il a peint à Giverny, il exclut à l'intérieur de ses peintures tout ce qui pourrait troubler l'émerveillement. Il est au service absolu de l'émerveillement de l'œil devant le monde. Alors, d'aucuns ont vu dans la série des Nymphéas le point de départ au fond de la peinture non figurative gestuelle à l'américaine, notamment John Mitchell qui a continué ça. Mais on peut aussi regarder ces tableaux comme de la surfiguration, comme la figuration absolue, c'est-à-dire que c'est des tableaux qui vous mettent en contact direct avec le monde qui nous entoure. Cézanne disait Monet c'est un œil, mais rien qu'un œil. Mais il ne voulait pas reconnaître que Monet est un prodigieux dessinateur. Et quand on regarde l'inscription du mouvement du bras et de la main dans ces grandes peintures des Nymphéas, c'est absolument fantastique. Et ce sont des tableaux immenses, et qu'il a peint, il avait 80 ans. Et il les a peints avant son opération de la cataracte et après. Et l'opération de la cataracte, dans les années 1900, tu te retrouvais avec des culs de bouteille comme ça sur les yeux et des déformations latérales formidables. Et puis, il a fait ça, il a traversé ça avec émerveillement. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est là le paradoxe de l'histoire de l'art et de la manière dont chaque génération s'approprie quelque chose. Lorsque Matisse et Picasso vont voir un artiste dans les années 20, ils se détournent complètement de l'impressionnisme de Monet et ils vont voir Renoir. C'est extraordinaire. Et tout d'un coup, ils vont retourner à une tradition qui s'abrite complètement dans l'œuvre de Renoir. Alors que ma génération a plutôt eu tendance à considérer qu'il y avait quelque chose de doucereux dans l'œuvre de Renoir et qui s'opposait justement à ce que nous aimions. Mais chaque génération a eu... La sensibilité générationnelle, c'est quelque chose de très très important. Et ce qui est important tout autant, c'est de savoir s'en échapper. L'exercice du portrait, c'est de révéler à quelqu'un justement un aspect de lui-même qu'il ignore. Alors, quand on fait le portrait de quelqu'un dont on connaît bien la famille, on fait défiler toute la famille, les oncles, les cousins, les tantes, etc. Parce que un visage, c'est ce mot magnifique de ce vers extraordinaire d'Apollinaire que je vais essayer de ne pas déformer. Notre amour est guidé par les calmes étoiles, et nous savons qu'en nous plusieurs hommes respirent, qui vinrent de très loin et sont teints sous nos fronts. Formidable. Et quand on fait justement un portrait, c'est de ça dont il s'agit. Alors par contre, lorsqu'on peint un corps humain, les femmes sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'elles ont accepté finalement de poser nues, finalement ça ne gêne pas, l'atelier est bien chauffé, le fauteuil est confortable. Et ça permet de réconcilier la totalité du corps avec lui-même. Parce que c'est rare quand percevoir tout son corps, c'est quelque chose de très difficile. Tout d'un coup, tu as mal aux dents, alors tu dis, puis tu t'es cogné, tu as de l'arthrose dans les mains, tu te vis toujours par bouts, par petits bouts, qui sont enchâssés les uns dans les autres. Et quand au contraire, on arrive à unifier le corps de quelqu'un par un tableau, c'est un acte très bienfaisant.
Voilà, c'était des extraits, de courts extraits, parce qu'on a dû garder pour le format de l'émission quelque chose comme une demi-heure, et puis il y a eu 50 minutes d'entretien intéressant avec Vincent Bugles et Pascal Plat. Eh bien, nous espérons que ça vous a intéressé. Vous pouvez trouver les livres, donc je rappelle, Conversation dans l'atelier aux éditions de Mince, et Le journal de Vincent Bugles aux éditions Méridiane. Et à très bientôt pour de nouvelles lectures. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.